On ne l'éteint jamais, mais enfin, elle a été éteinte un moment. Mais la lumière vient d'en haut, hein, cette lumière merveilleuse. Je dis cela pourquoi ? Parce que lorsque Michel m'a téléphoné pour me demander si je pouvais apporter la méditation, la prédication du 31 juillet, je lui ai dit tout de suite oui, sans problème. Mais je me suis mis à réfléchir au sujet que je devais traiter avec vous. Et puis les jours ont passé. Et puis dernièrement, il est survenu quelque chose dans ma vie, c'est que j'ai été obligé de consulter un ophtalmologiste. Vous voyez pourquoi la relation avec la lumière. J'ai des difficultés de voir avec l'œil droit et ceci m'a fait penser à un message que j'ai prêché il y a bien longtemps déjà concernant justement l'organe, en particulier l'organe de la vue, mais pas simplement. Alors nous allons ensemble lire un texte dans la parole de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, évangile de Matthieu au chapitre 13, au début du chapitre, dans les 9 premiers versets, le Seigneur parle à la foule et leur parle du semeur. Vous savez la parabole du semeur, vous la connaissez tous. Et après avoir donc parlé avec toute cette foule de cette parabole, il nous est dit au verset 10, « Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous comprendrez et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Je ne vous connais pas tous, j'en connais plusieurs, quand même des anciens parmi vous, avec qui nous avons fait un bout de chemin ensemble. Étienne l'a dit tout à l'heure dans un petit aparté, mais pas seulement avec lui. Il y a quelques années en arrière, on faisait des conventions ensemble, les églises de Toulouse, et nous avons donc fait connaissance à cette époque-là de quelques-uns parmi vous. Mais vous êtes beaucoup de jeunes que je ne connais pas trop, que je ne connais pas du tout même pour certains. Cela n'empêche pas que nous pouvons ensemble méditer sur cette parole que nous venons de lire. Vous avez vu que le Seigneur parle à ses disciples et parle aux hommes et leur parle en parabole, en image. Nous avons souvent besoin de représenter graphiquement la pensée que nous avons concernant les choses de la vie, peut-être, mais aussi et surtout les choses du Seigneur. Je me souviens, dans mon enfance, quand j'avais encore 7 ou 8 ans et que j'allais à l'école du dimanche, une dame qui était missionnaire Nous faisions l'école du... À l'époque, c'était l'école du jeudi, c'était pas l'école du dimanche, c'était ni du mercredi, c'était du jeudi. Et elle nous faisait les leçons avec le flanellographe. Je ne sais pas si vous utilisez ça parmi vos enfants. Maintenant, on utilise des méthodes beaucoup plus sophistiquées. Hein? Mais avec le flanellographe, elle nous avait raconté l'histoire du peuple d'Israël depuis sa sortie d'Égypte jusqu'à son arrivée au pays de Canaan. Et comme si je le voyais aujourd'hui, je le vois encore. Ces images sont restées gravées dans mon cœur. J'avais besoin de cela pour comprendre ce que Dieu avait fait à l'égard de son peuple dans la servitude. Mais ici, le Seigneur va parler à ses disciples, il leur dit, à vous, il vous a été donné de comprendre ces choses, mais pas à eux. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Laissez-moi vous dire encore ce matin deux choses me concernant, ma femme est en train de sourire, parce que je ne vois pas bien de cet œil-là, surtout pour lire. Pas pour la vision générale, mais surtout pour lire, j'ai pas mal de difficultés. Mais en plus, je suis dur d'oreille. Et ça, c'est embêtant, parce que quand dans l'assemblée, il y a des moments de prière et que certains prient presque dans leur barbe, on n'entend pas la prière. Je n'entends pas la prière. Alors comment dire « Amen » à ce que je n'ai pas entendu ? Vous avez des yeux pour voir, vous avez des oreilles pour entendre. C'est une situation angoissante que d'être privé de la vue. Et j'ai eu des expériences dans ma famille, des oncles et des cousins, qui ont tous connu ce problème de vue. Certains sont arrivés jusqu'à la cécité totale. Et encore, j'ai une cousine ici à Toulouse qui est presque dans cet état-là. C'est une situation angoissante. Que de problèmes, que de difficultés auxquelles sont confrontés les non ou malvoyants. Il leur faut souvent beaucoup de courage à cela. Mais que dire de ceux qui ont de bons yeux et qui marchent comme s'ils ne voyaient pas? N'y a-t-il pas là une attitude incompréhensible? Et pourtant, bien des personnes savent qu'elles suivent une mauvaise voie. Mais elles s'y maintiennent malgré tous les avertissements qui leur sont adressés. Des avertissements qui leur sont adressés de diverses manières tout autour d'eux. Il y a un passage dans le livre du Deutéronome, au chapitre 29, je lirai simplement ces deux versets, qui dit ceci, « Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait pour vous, sous vos yeux, dans le pays d'Égypte, à Pharaon et à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. » Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Que dire de quelqu'un qui, malgré les panneaux indicateurs indiquant un danger imminent sur la route, par exemple, continue à rouler comme si de rien n'était. Il nous arrive souvent, et heureusement, j'ai mon épouse à mon côté, parce que souvent sur la route, lorsqu'il y a un détournement de chemin, des travaux sont signalés, mais je continue à accélérer, ou à rouler à la même vitesse, et ma femme me dit « Attention, il y a un obstacle !» Effectivement, il fallait lever le pied, donner un petit coup de frein, et puis se déporter et aller. Que dire de ceux qui sont prévenus que le péché qui est dans leur cœur est quelque chose qui va les entraîner à la mort, et qu'il y a un moyen d'être sauvé, et ce moyen est unique, c'est Jésus-Christ mort pour nous sur la croix du calvaire. Si on dit cela aux hommes, on va rire de nous. Vous savez, je lisais ces jours-ci dans un feuillet de calendrier, je ne sais pas si vous l'avez vu ou lu, certains d'entre vous, l'histoire de cet homme chrétien qui a quitté l'Angleterre pour se rendre, c'était au 18e siècle, hein, ou 19e siècle. C'est pas dernièrement, là. Il a quitté l'Angleterre pour se rendre dans un pays lointain, et il s'est dit, pendant toute la traversée, qui durait plus d'un mois, peut-être, il a dit, je vais essayer de parler, de rendre témoignage. Et il a commencé à parler aux gens, mais tous les gens se moquaient de lui. Tous les voyageurs se moquaient de lui. Et puis même un jour, le capitaine s'est arrêté. Et il a pris sa longue vue, là, vous savez, sa lunette, et il a commencé à scruter le ciel. Et il disait tout bas, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Et les gens montaient à l'endroit où se trouvait le capitaine, se l'ont entouré, ils lui ont demandé, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, eh bien, je scrute le ciel et je ne vois pas Dieu. Alors cet homme qui voyageait avec eux est monté auprès du capitaine, et il lui a dit, c'est normal que vous ne voyez pas Dieu. Ah bon? Et pourquoi? Il dit, parce que la Bible dit, seul celui qui a le cœur droit verra le Seigneur. Il y a eu un silence complet sur le bateau. Il est redescendu et la traversée a continué ainsi. Voilà ce que je veux dire par la vue. Soyez tous, nous qui voyons le Seigneur, nous qui voyons le parfait modèle en Jésus-Christ, soyons tous des panneaux indicateurs, mais des panneaux indicateurs à la fois visuels et sonores. Il faut que l'on voit dans notre vie que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que l'on voit que nous sommes sauvés, que le Seigneur Jésus est notre Sauveur. Et si, en nous voyant, on nous demande raison de notre foi, alors parlons et disons ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. C'est ce qu'ont fait les disciples. Dès que le Seigneur Jésus les a quittés au jour de l'ascension, ils sont allés d'abord se réunir à Jérusalem dans la chambre haute en attendant que le Saint-Esprit envoyé par le Seigneur descende sur eux, et ensuite ils sont partis. Et ils ont commencé à évangéliser toute la Palestine, tout le pays, la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont quitté même le pays, ils sont partis sur des bateaux, et ils sont allés ainsi propager l'Évangile dans le reste du monde. Et aujourd'hui encore, des chrétiens font cela. Et aujourd'hui encore, nous pouvons être ces panneaux indicateurs, visuels et sonores, présentant celui qui seul peut sortir l'homme de sa situation précaire et le faire demeurer dans le royaume de son amour. Nous pouvons désormais contempler sa gloire et sa magnificence. Nous n'avons pas besoin des yeux du corps pour voir la gloire de notre Dieu, mais nous avons besoin d'avoir les yeux de notre cœur, de notre entendement, pour voir et contempler la majesté de celui qui a donné sa vie pour nous. La vision du Seigneur dans la parole de Dieu nous fera voir par la foi. bien au-delà des limites de notre vue physique. Rappelez-vous la parole d'Étienne, le premier martyr chrétien. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 7, au verset 56, il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. » Et c'est sur cette confession profonde de la foi qu'avait Étienne que les hommes se sont déchaînés contre lui et l'ont lapidé et l'ont fait mourir. Seule vision réconfortante et vivifiante pour notre vie. Nous avons parlé des yeux, nous allons parler des oreilles maintenant. Vous savez, la nature nous a dotés, la nature, c'est Dieu qui nous a créés, n'est-ce pas ? Nous a dotés de 5 sens essentiels. Vous les connaissez ? La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Ce sont les 5 sens que la nature nous a donnés. Nous avons vu déjà, eh bien, comme je l'ai dit, nous avons vu la vue. Nous allons voir maintenant l'ouïe. Le Seigneur nous a dotés d'oreilles aussi. Il a dit, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent point. Aujourd'hui encore, des personnes privées de l'ouïe sont souvent des êtres comme absents du monde qui les entoure. Ils n'entendent rien, il ne se passe rien, ils sont privés de communication. Ces personnes-là se tiennent à l'écart, repliées dans leur souffrance et vivent comme dans une sorte d'existence irréelle. Un proverbe, quelqu'un a dit « Il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. » Il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et ce dicton rejoint ce que le Seigneur Jésus dit des incrédules. Il dit « Ils ont endurci leurs oreilles. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Combien de fois nous avons parlé à des parents, à des enfants, à des petits-enfants, des cousins, des neveux, de la famille qui ne sont pas encore au Seigneur et à qui nous voudrions apporter l'évangile de libérateur. Et combien de fois ces personnes-là ont fermé leur cœur à la grâce du Seigneur. Permettez-moi de vous dire que je pense en cet instant particulièrement à un cousin dont nous avons appris le décès hier. Et c'est un cousin qui a été élevé. Il avait à peu près mon âge, un peu plus jeune que moi. Et nous avons été élevés ensemble, dans la même maison. Nous avons fréquenté les mêmes réunions. Nous avons assisté aux mêmes réunions d'enfants où on nous enseignait. Il a pourtant vécu toute sa vie comme un mécréant. Mais je veux croire que, avant d'expirer, il a eu le bonheur de se tourner vers le Seigneur. Nous n'en savons rien. Oui, c'est dur d'être sourd. Dans combien de textes bibliques il nous est dit que Dieu parle aux hommes, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme il est dit dans Job. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'en prend point garde. Et puis aussi, dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé, après avoir, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, et au travers de sa parole, que Dieu parle. Il parle, et nous devons écouter. Mais il parle, et souvent nous fermons les oreilles. Tôt ou tard, l'homme se trouvera confronté à une bifurcation. Il y aura un choix à faire. Surtout après avoir entendu la prédication de l'Évangile, ils sont devant un choix à faire. Alors Dieu parle à ce moment-là. Il parle par quelques moyens au cœur de l'homme pour lui indiquer le bon chemin à suivre. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin ». Et si nous voulons essayer d'autres chemins, ils n'arriveront pas au Père. « Je suis le chemin », a-t-il dit. Il n'a pas dit « Je suis un chemin qui mène à Dieu ». Il a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Entendront-ils ces gens-là qui ne font pas cas de la parole de Dieu, entendront-ils cette voix du Seigneur à ce moment-là? Admettront-ils leur erreur? Accepteront-ils de le suivre? Ou bien refuseront-ils d'entendre? Et seront-ils sourds aux appels de la grâce? Puissions-nous être entre les mains du Seigneur des voix qui fassent entendre le message libérateur de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Un autre texte dans la parole va nous donner l'occasion de parler du troisième sens, l'odorat, et nous lisons dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2. Au verset 14 à 17. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Chez certains, l'odorat fait défaut. Et cela peut devenir un handicap particulièrement gênant lorsqu'on se trouve en société. Chez d'autres, au contraire, il est particulièrement affûté et leur permet de discerner une odeur parmi beaucoup d'autres. Cela nous fait penser à Dieu qui respire notre odeur. Qui respire notre vie dans toutes ses odeurs. Et à qui rien n'échappe. Alors Dieu, que sent-il? Sent-il, comme nous avons lu, la bonne odeur de Christ? Comme nous avons lu, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Est-ce que Dieu sent cette bonne odeur de Christ en nous? Ou au contraire, sent-il plutôt ces odeurs nauséabondes qui émanent des choses, des cloaques de ce monde? Le monde essaie d'empoisonner nos pensées, nos actes, nos attitudes. Le diable se déchaîne quand nous plongeons nos regards dans sa parole, dans la parole de Dieu. Il se déchaîne et il veut mettre au contraire dans notre esprit toutes sortes de choses, des choses qui sont abominables. et qui sont comme des relents de mauvaise odeur. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que le monde sent dans nos vies? Des odeurs qui l'attirent? Normalement, la bonne odeur attire, n'est-ce pas? Quand on respire une bonne odeur, on est content, on dit tiens, ça sent bon ici. Et puis, il y a d'autres odeurs en nous. Mais sent-il le monde ces odeurs bonnes de Christ en nous, ou sent-il les odeurs nauséabondes du monde? Est-ce que nous sommes vrais devant Dieu, ou est-ce que nous sommes faux? Est-ce que nous varions dans nos vies, dans notre attitude, dans nos actes, dans nos paroles? Alors pour cela, la Bible est là. Et chaque ligne de ce merveilleux livre nous imprègne de la douce et bonne odeur de Jésus-Christ. Même là où Dieu dénonce les mauvaises odeurs des mauvaises actions des hommes, il présente Jésus-Christ pour délivrer et apporter l'odeur de sa connaissance, comme nous l'avons lu au verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. En propageant l'évangile, en apportant la bonne parole à ceux qui sont perdus dans ce monde, nous propageons la bonne odeur de sa connaissance. Connaître Dieu, c'est connaître vraiment ce qui est le meilleur. Après l'odorat, nous arrivons au quatrième de ces points, c'est le toucher. Pour cela, je voudrais lire un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 8. Évangile de Luc, chapitre 8. Rapidement, nous allons lire quelques versets, juste quelques versets, au verset 43 à 48. Luc 8, 43 à 48. Il est dit, « Or il y avait une femme, Jésus était dans la foule, n'est-ce pas? Il marchait avec ses disciples et il était entouré d'une foule immense. Vous savez, dans ces pays-là, on a vite fait de s'agglutiner aux personnages qui passent. Alors il y avait beaucoup de monde. Il nous est dit, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tous ses biens, tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie. À l'instant, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Il existe des professions où un toucher très développé est indispensable. Ce sens est particulièrement sensible chez les personnes aveugles. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Hein? Personnes aveugles se déplacent toujours en touchant un meuble, un mur, une chaise, etc. Et ce toucher chez eux est particulièrement sensible. C'est pourquoi il a été créé le fameux Morse, n'est-ce pas, l'alphabet Morse, pour permettre à ces aveugles, par le toucher, de lire et de comprendre. La femme de ce récit de l'évangile de Luc a bien compris la valeur de ce sens particulier. Dans les autres évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu et Marc, il nous est rapporté que cette femme s'est dit en elle-même, si je pouvais au moins toucher le bord de son vêtement, je sais que je serais guéri. C'est donc une foi incroyable qui l'a poussée à toucher le vêtement de son Seigneur. Au milieu de toute cette foule, de tous ceux qui le pressaient, elle a touché que le bord du vêtement de Jésus. Mais elle a été guérie sur le champ. Elle a été guérie sur le champ. C'était pour elle le moment ou jamais de prendre contact avec lui. Un contact discret, personnel, sans intermédiaire. C'est le contact que nous avons eu un jour avec lui. Peut-être vous en souvenez-vous, du jour où vous avez ouvert votre cœur et vous lui avez dit, Seigneur, je te demande pardon, j'ai péché, j'ai mal agi, je confesse mes fautes et je te demande de me pardonner. Et le Seigneur vous a immédiatement répondu parce que votre cœur a été soulagé de toutes ces choses. Vous l'avez touché à ce moment-là. Le toucher de cette femme était là, imminent, un contact donc discret, personnel, sans intermédiaire. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le vêtement de Jésus lui suffisait à cette femme. Mais Jésus savait qu'en touchant le bord de son vêtement, le geste intérieur de cette femme correspondait à le toucher lui-même. Qui m'a touché, dit-il. Qui m'a touché? Notre toucher doit être spirituel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est lorsque nous avons fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Le jour où nous avons compris que nous étions des pécheurs et que nous avions besoin d'un sauveur. Et que ce sauveur, c'était Jésus. Alors nous l'avons touché. Nous lui avons ouvert notre cœur. Il doit être donc spirituel et la lecture assidue de la parole de Dieu nous donne la certitude de le toucher, lui, le Seigneur, chaque fois que nous lisons ce qui le concerne dans cette parole, par sa grâce. La guérison était le seul objectif de cette femme dans l'expression de son toucher. Alors recherchons le Seigneur pour la guérison de l'âme, et confessons-lui nos péchés, et confessons-lui notre faiblesse, notre impossibilité à nous sauver nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre moyen que de venir à Jésus, et c'est à lui que nous voulons rendre gloire. Enfin, le dernier sens que nous avons, c'est le goût. Pour cela, nous lisons dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. Versets 1 à 3. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et aussi, la parole nous parle de toutes ces choses-là. On peut peut-être se dire, bon, c'est pas si important que ça de parler et du toucher et du goût et de l'ouïe et de la vue et de l'odorat. C'est peut-être pas si important que ça, mais la parole de Dieu nous dit ici, si vous avez goûté, que le Seigneur est bon. Ce n'est qu'en le goûtant que l'on peut apprécier un aliment, n'est-ce pas? Peut-être aussi par la vue, il est bien disposé, bien présenté, il est attirant, il est appétissant. Mais si on n'y goûte pas, on ne sait pas si c'est bon. Il existe... Non, pardon, c'est pas ça. Les gourmets savent apprécier et discerner ce qui est bon et surtout, ce qui est meilleur. On est quelquefois heureux de suivre les conseils de ces gourmets, des conseils, et de savourer leur leurs offres de repas. Mais croire en Jésus-Christ, alors non, je ne suis pas là. Voilà, excusez-moi, hein, le problème est quand même là, parce qu'il y a quand même les lignes qui se chevauchent, alors il faut faire attention. Vous voyez, on a bien raison de penser que la vue est importante, pas simplement pour notre vue physique, mais aussi pour notre vue spirituelle. Alors, selon ce verset 3 de 1 Pierre, nous avons goûté que le Seigneur est bon. Il vaut la peine de choisir ce que le Seigneur nous propose. Le monde nous présente des nourritures qui semblent appétissantes, bien préparées, bien arrangées. Mais après, gare aux crises digestives, gare aux crises de foie, foi, F-O-I-E, hein. Que de maux dont souffre le monde après avoir avalé tant de poisons contenus dans ces divers repas. Quels sont ces repas que le monde nous offre? Des lectures, des films, des histoires grivoises, des choses qui nous apportent que de mauvaises choses dans notre vie. Et ce n'est pas des nourritures réconfortantes et fortifiantes. Les souffrances augmentent toujours plus. Malgré quelques timides essais de lutte, par exemple dans la lutte contre le tabac, contre les alcools, contre la drogue, contre le sida et contre d'autres choses encore. N'est-ce pas? Malgré toutes ces luttes-là, il y a quand même une insatisfaction totale du cœur de l'homme. Pourtant, la table royale de Dieu est dressée. Et que contient-elle? Que contient-elle? Ésaïe chapitre 25, verset 6 nous dit « Un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. » Ésaïe 55, plus loin, au verset 2, nous dit « Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. » Et puis dans Proverbes, au chapitre 9, il est dit « La sagesse a dressé sa table, et elle dit « Venez, mangez de mon pain, et buvez du vin que j'ai mêlé. » Et vous vous souvenez tous du psaume 23, et au verset 5, où il est dit « Tu dresses devant moi une table. » Le Seigneur dresse pour nous la nourriture la meilleure qui puisse être. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soyons des gourmets concernant la parole de Dieu, car c'est là que nous trouverons le meilleur pour notre âme. Pouvons-nous dire aussi comme Ézéchiel au chapitre 3, au verset 3, concernant le rouleau du livre de la parole de Dieu, il dit « Je le mangeais et il fut dans ma bouche doux comme du miel. » Et la même expérience a été faite par Jean sur l'île de Patmos lorsqu'il a eu la révélation de l'Apocalypse, ce livre qui termine la Bible. Il nous est dit que Jean a dit exactement la même chose. Je le mangeais et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Croire en Jésus-Christ, c'est comprendre qu'il vaut mieux quitter les mets empoisonnés que le monde nous propose pour goûter ce que Dieu nous offre dans sa parole. se délecter de sa parole. Voilà la vraie découverte de la vie sans lendemain décevant. C'est une vie d'abondance que le Seigneur nous propose par ces mets succulents qu'il a préparés pour nous dans sa parole. Voilà les cinq sens dont nous sommes dotés dès notre naissance et spirituellement l'application que l'on peut faire à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Mais je voudrais parler maintenant d'un sixième sens, et ce sera le dernier, n'est-ce pas? Vous allez me dire, mais il n'y a pas six sens, on n'en a que cinq. Il y en a un sixième, c'est le cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ça, c'est Pascal qui a écrit ça, je crois, hein, dans ses pensées. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est bien ça? C'est bien Pascal, hein, qui l'a écrit. Ouais. Voir, entendre, sentir, toucher, goûter, sont autant d'appels à croire en la gloire de Jésus révélée aux hommes. Mais pour être efficaces et réalisables, ces appels doivent être suivis d'un engagement personnel qui plonge ses racines dans le cœur, afin de bien comprendre ce que nous faisons. Le but de Dieu, c'est la conversion des hommes. Dieu veut, nous dit la parole de Dieu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nous sommes obligés de reconnaître que tous ne le seront pas. Mais c'est son désir, c'est ce qu'il veut. Et c'est donc, Dieu veut la conversion de l'homme, c'est-à-dire ce changement de vie total, cette nouveauté de vie, comme parle l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Rien n'est réalisable par soi-même. Peut-on communiquer une nouvelle façon de vivre? Peut-on communiquer une nouvelle façon de penser, de voir, d'entendre, de sentir, de toucher, de goûter, sans atteindre tous les aspects de la vie familiale, social, professionnel, conjugal? C'est dans tous ces domaines-là que Dieu veut nous apporter sa grâce. Et dans tous ces domaines-là, c'est notre cœur qui est engagé. Agir sans comprendre ce que l'on fait n'aboutit à rien. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13 et au verset 7, le Seigneur Jésus dit à l'apôtre Pierre, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Avant la résurrection de Jésus, Pierre n'était pas, n'avait pas tenu le coup, n'est-ce pas? Il a vécu malgré tout 3 ans avec le Seigneur. Et il a fallu que le Seigneur soit arrêté et dans cet endroit où étaient réunis tous les hommes pour accuser Jésus, Pierre était là aussi, et lorsqu'on l'a accusé d'être le disciple du Seigneur, il a dit, mais moi je ne le connais pas. Mais il lui a fallu passer par un autre sentiment plus profond lorsque, après la résurrection, le Seigneur lui est apparu au bord du lac, vous le savez, et qu'il lui a dit à Pierre, « Pierre, paie mes agneaux. » Il lui a dit, « M'aimes-tu ? » Et Pierre a répondu, « Tu sais que je t'aime. » Et il a fallu 3 fois lui poser la question pour qu'il arrive à dire, « Tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. » Dans Jean 21, et verset 17, pour comprendre ce qu'il faisait, l'apôtre Pierre a donc répondu, « Tu sais toute chose. » Il ne dit pas simplement « Tu sais que je t'aime ?» Il dit « Tu sais toute chose. » Et le Seigneur connaît toutes choses dans notre être et dans notre vie. Voilà le véritable déclic. Confesser que l'on n'est rien et qu'il peut tout, qu'il sait tout. Il ne s'agit pas d'une amélioration religieuse, une sorte de lifting de notre vie, mais un engagement à laisser Christ entrer pleinement dans notre cœur et lui laisser occuper toute la place en Seigneur de nos vies. L'expression de notre cœur n'est donc pas un simple sentiment, mais bien réellement un sixième sens. Certainement le plus important de tous. Et pour terminer, je voudrais vous citer deux versets. Le premier verset, c'est un verset qui est dans les Proverbes, au chapitre 23, verset 26. Le roi Salomon transmet la parole de Dieu et Dieu dit « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Si vous lui donnez votre cœur, tout lui appartient. Parce que le cœur est le centre de tous nos sentiments, de toutes nos pensées, de tout notre être. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et Ézéchiel, au chapitre 36, verset 26, nous rapporte aussi cette autre parole du Seigneur qui, en quelque sorte, est une réponse au premier verset cité. Le premier verset, c'était « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Dans Ézéchiel, il dit, le Seigneur dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Je vous donnerai un cœur nouveau. Chers frères et sœurs, je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu long. Mais le Seigneur a bien voulu nous parler au travers de ces différents textes afin que nous soyons réconfortés dans notre foi. Si nous appartenons tous au Seigneur, nous serons fortifiés et nous irons de l'avant avec lui pour le glorifier, pour l'honorer. Si nous n'appartenons pas encore, si quelqu'un parmi nous n'est pas encore au Seigneur, il n'a qu'un pas à faire. Se mettre à genoux devant le Seigneur et dire « Seigneur, je te demande pardon, sauve-moi. J'ai péché, mais toi tu es puissant et tu peux me sauver. » C'est ce que j'ai entendu ce matin et c'est ce que je veux retenir pour ma vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne le reste de cette journée et les jours à venir aussi.